Bonjour Renaud Dourge en votre compagnie. J'ai le plaisir dans ce studio d'être aujourd'hui avec Aline Voineau pour Napoléon, Louis et Mathilde, 200 jours. Cet ouvrage est paru chez Plume Tactile Édition. Voilà. Aline Voineau, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà, votre maison d'édition, c'est la première fois que je la découvre.
Parce qu'elle est toute récente, c'est une toute nouvelle, toute petite maison d'édition qui commence avec mon livre, donc on verra, on verra par la suite.
Ben, je pense que vous allez leur porter chance.
J'espère.
Parce que votre série, donc, avec ces personnages fictifs et personnages historiques, ce troisième volume, les deux premiers avaient déjà eu du succès.
Voilà, ça, ils ont bien marché, oui, effectivement. Créer un personnage fictif pour raconter l'histoire de France de façon romanesque et ludique presque est quelque chose qui marche bien, qui est apprécié. Donc,
Et il faut souligner que vos ouvrages justement ont été salués par Jean Tullard lui-même,
que nous connaissons bien ici. Oui,
oui,
le professeur Tullard, j'ai la chance, Monsieur Lintz également, ils m'ont fait de bonnes critiques sur les deux premiers volumes, donc c'est toujours agréable et ça aide ensuite à continuer.
Et on ne peut pas trouver plus spécialiste que Jean Tullard, je crois, actuellement sur l'Empereur.
Oui. Thierry Lenz aussi se défend bien. Ils sont chacun dans leur domaine, mais c'est deux références que moi, j'apprécie énormément.
Mais une de mes invitées, qui concernait un ouvrage qui concernait cette époque, il y a quelque temps, m'avait dit qu'il paraît en moyenne au moins un livre par jour consacré à Napoléon.
Je crois que c'est même 2,5. Et si on ajoute les empereurs et tout l'univers napoléonien, on arrive presque à 3. Quoi. C'est incroyable. Depuis sa mort.
Et vous-même, c'est une fascination pour cette période qui vous a amené à faire 3 volumes avec ces personnages?
Figurez-vous que je suis la réformabie, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque
chose.
Tout à fait,
voilà. Oui.
Ceux qui étaient nés, moi je suis né en 67, donc c'est ceux qui étaient nés en 1966 qui étaient les premiers. Et je n'ai jamais étudié Napoléon à l'école. À l'époque, on apprenait les deux empires, l'empire romain et l'empire napoléonien en même temps. Et chaque fois, en quatrième et en seconde, et chaque fois, moi je n'ai fait que l'empire romain. On était en retard sur le programme, on n'a jamais fait. Et je pense qu'on ne peut pas être français sans connaître ce qu'a fait Napoléon. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais il faut savoir ce qu'il a apporté à la France.
Et c'est pour ça qu'il y a eu des générations d'élèves, d'enfants qui nulent en histoire le fait de cette réforme catastrophique.
Disons qu'ils n'ont pas appris Napoléon et je trouve que
C'était plus l'histoire chronologique avait disparu.
Voilà, on n'apprenait plus l'histoire de façon chronologique et c'est dommage parce qu'un fait arrive parce qu'il s'est passé quelque chose avant et il se passera quelque chose après et c'est donc important, je pense, de respecter la chronologie. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue.
Nous avons bien sûr les personnages historiques, mais il y a les personnages de fiction, et je vous demanderai de présenter les personnages de fiction qui ne sont pas connus de ceux qui ne vous ont pas encore lus, voilà. Mais ça va venir.
Il y en a qu'une en fait, donc c'est assez facile, et c'est la clé de lecture de ces trois volumes, de cette trilogie. Elle s'appelle Mathilde, donc tout ce qui concerne Mathilde est évidemment de la fiction, et tout ce qui ne la concerne pas est historique. Alors sur le premier volume, parce qu'à l'époque, la critique portait sur le premier volume, Thierry Lintz avait dit « c'est historiquement impeccable ». Voilà. Alors parfois, on me fait des petites remarques comme quoi j'ai marié mon héroïne à Cambacérès.
On va en parler justement.
Voilà. Mais c'était vraiment voulu et je l'explique dans le livre et je la note bien. Cambacérès était homosexuel et Napoléon lui avait dit de s'afficher avec une femme. Alors il avait choisi une actrice qui, je pense, elle-même était homosexuelle, mais il ne s'était pas marié. Moi, ça reste un roman, je ne suis pas historienne, mais je respecte au maximum les faits historiques et j'ai bien à noter que je mariais mon héroïne à Cambacérès, sachant que Cambacérès ne s'était jamais mariée. Et certains m'en veulent, hein. Chaque fois ils me le ressortent
non,
et je leur dis
pas, il y a eu beaucoup de personnes homosexuelles qui se sont mariées ne serait-ce que pour des convenances.
Voilà. Mais Cambacérès ne s'est jamais mariée, donc parfois on me reproche ce point-là parce que j'ai marié Cambacérès dans ma trilogie.
Mais c'est un roman,
la exactement.
Licence romanesque existe.
C'est un roman et c'est expliqué en annotation que c'est un mariage qui est fictif, voilà.
Nous avons donc Cambacérès et dans les personnages historiques, il y en a un qui va jouer aussi un rôle dans cet ouvrage. De sinistre mémoire, dirais-je, c'est Fouché.
Fouché, et en particulier dans le tome 3, il apparaît tout particulièrement, même si c'est un personnage qui est très récurrent dans la série, parce que Fouché, c'est un vrai personnage, hein, c'est incroyable, il a traversé, comme Talleyrand, tous les régimes, et donc un vrai serpent qui le voit, et c'est vrai qu'à la période des 200 jours, il était président du gouvernement provisoire, d'ailleurs on a vu comment est-ce qu'il l'avait obtenu, on le voit dans le livre, comment il obtient cette présidence qui aurait dû normalement revenir à Carnot, si on comptait le nombre de voix, mais il l'a encore joué bien à son avantage.
Alors, on va parler de la période des 100 jours, mais le sous-titre, c'est 200 jours, justement.
Oui, j'ai fait exprès de... Alors, 100 jours, c'est quelque chose qui était au départ attribué à Louis XVIII, d'ailleurs. Hein. Dans un second temps, on parle le préfet de Paris, lors de son retour, il parle des 100 jours, mais il parle des 100 jours de, de, d'exil de Louis XVIII, pardon. Et après, on l'a attribué à Napoléon. Mais là, je parle de 200 jours parce qu'en fait, je vais du mois de mars où Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe jusqu'à son arrivée à Sainte-Hélène. Et ça fait 200 jours.
Bien sûr.
Voilà. Donc, du coup, comme c'est toute cette période-là, voilà, on finit avec le procès de Ney, du maréchal Ney.
Qui avait promis de ramener Napoléon dans une cage de fer.
Exactement. Il a fait fait. Il s'était engagé un peu vite et il ne l'a pas fait. Quand il a croisé... je l'explique aussi dans le livre, la façon dont Napoléon a retourné Ney, avec un peu de stratégie aussi. Enfin, bref, Ney s'est engagé un peu trop tôt et est revenu avec les équipes de Napoléon, quasiment. Donc, voilà.
Mais lorsqu'il sera... Il va être condamné à mort, fusillé, ça on le sait. Quoi ? Il y a des théories selon lesquelles il serait parti aux États-Unis. Je ne sais pas si vous les connaissez.
Je sais que Fouché, qu'il avait inscrit, vous savez, on avait demandé à Fouché de faire une liste des traîtres, entre guillemets, chose où il était bien embêté parce qu'au départ, il avait expliqué où on mettait tout le monde, où on mettait personne. Et finalement, on lui avait vraiment imposé de faire cette liste. Donc, il avait mis en numéro un Ney, mais il lui avait quand même fourni un passeport pour partir... aux États-Unis et malheureusement Ney, pourquoi il n'est pas parti, il est allé se cacher chez une cousine de sa femme dans le sud-ouest, je ne sais pas exactement, puis il a été arrêté et s'en est suivi
un procès. Et dans ceux qui ont décidé de sa mort, beaucoup de ses anciens amis, maréchaux d'Empire.
Exactement, c'est bien malheureux. Oui, un certain nombre ont voté la mort. Après tous les royalistes, Chateaubriand, enfin tous ceux qui étaient royalistes ont voté la mort également. Quoi.
Vous citez Chateaubriand et concernant... Fouché et Talleyrand, il y a une formule très célèbre.
Oui.
Le crime, le vice appuyé sur le crime.
Sur le crime, exactement, quand il sort de l'antichambre de Louis XVIII.
Parlons de Louis XVIII. En fin de compte, c'est un roi qui est peu connu, dirais-je, des Français.
Oui, je pense
Il arrive peut-être parce qu'il arrivait dans les bagages de.
Alors, on rappelle que Louis XVIII était un des frères de Louis XVI.
Bien sûr, des deux frères.
Voilà, ils étaient trois frères, hein, Louis XVIII, et donc trois à régner, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, le petit frère qui régnera après Louis XVIII. Louis XVIII, c'est est-ce que je peux dire le plus intelligent? En tout cas, c'est celui qui a le plus appris. Il a été pendant 23 ans en exil et il a mûri cet exil en réfléchissant comment revenir, puisqu'il a réfléchi à plusieurs moments de revenir. Il a voulu revenir plusieurs fois en France et il a bien compris qu'il ne pouvait pas restaurer la royauté telle qu'elle était avant la Révolution.
Contrairement à ce qu'a fait son frère ensuite, Charles X.
Exactement, qui était un ultra. Hein. Lui, au contraire, il a créé sa charte, hein, qui était le pivot de sa politique, hein, quelque part, et dans laquelle il avait fait une monarchie bicamérale avec deux chambres. Et ce qui est très remarquable, c'est qu'on ne lui a pas imposé cette charte. C'est de lui-même, il l'a octroyée, et c'est tout à son honneur. Donc je pense qu'il est méconnu et alors Monsieur Emmanuel Varesquiel, qui est son biographe, hein, voilà, je veux dire, a écrit beaucoup sur Louis XVIII et il lui rend hommage.
Et à cette époque, bon, bah, il est impotent, il est podagre.
Il est podagre, oui. Je pense qu'il devait être diabétique également.
Miné par la goutte.
Donc,
et le diabète probablement.
Voilà,
aussi.
Voilà. Donc il était obèse, donc avait de grosses difficultés à marcher. Et puis c'était vraiment l'opposé de Napoléon. Quand il a fallu lutter contre Napoléon, physiquement, il ne pouvait pas se mettre sur un cheval et aller l'arrêter lors de sa marche, la traversée de l'aigle, comme on dit. Donc il y a envoyé son frère, etc. Enfin, avec la débâcle qui a suivi, parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais c'est vrai que son physique lui a joué des tours. C'est un intellectuel, je pense, Louis XVIII plutôt.
Napoléon s'évade de l'île d'Elbe. On a l'impression qu'on veut cacher, on pense que presque c'est anecdotique, que ça ne va pas marcher.
Oui, ben, c'est-à-dire qu'il était reclus dans cette île d'Elbe, le congrès de Vienne n'était pas terminé. Et imaginez, ils étaient sur la fin, en train de finir des mois et des mois, parce que c'est le congrès de Vienne, c'est le premier conseil, je dirais, international.
Talleyrand a eu un grand rôle d'ailleurs.
Exactement.
Alors qu'il aurait dû être vraiment.
Il a été très bon.
Très secondaire.
Il a été très bon. Louis XVIII lui avait donné 4 ou 5 directives et il les a tenues toutes, quoi. Voilà. Et entre autres, j'en profite parce que dans les directives qu'il lui a données, il y avait de faire tomber Murat, qui avait gardé son royaume de Naples. et ils y sont arrivés, quoi.
Rappelons qu'ici, que j'ai reçu au moins à deux reprises un descendant direct, Alexandre Murat, descendant de Joachim Murat. Vous le connaissez aussi, je crois,
Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer. Enfin, moi, j'ai rencontré Emmanuel, mais j'ai rencontré aussi Joachim. Et c'est vrai que...
Qui, lui, écrit des romans, mais pas du tout historiques. Ce sont presque ce qu'on appelle le fantasy, un peu science-fiction, un peu fantastique.
D'accord.
Enfin bon, nous formons la parenthèse.
Et Radio Courtoisie est sur le boulevard Murat.
C'est ce que je voulais faire remarquer. Je lui ai dit, vous êtes dans votre boulevard.
Voilà.
Nous arrivons donc au retour de l'île d'Elbe. Et, chose que j'ai lue dans votre ouvrage, les Anglais ont-ils projeté de l'enlever de l'île d'Elbe pour l'envoyer déjà à Sainte-Hélène, voilà, oui. alors qu'il était considéré comme le souverain de l'île d'Elbe,
voilà, officiellement. Oui, en fait, ils en parlaient déjà pendant le congrès de Vienne. Et c'est une des raisons aussi qui fait que Napoléon... Souvent, ils ont cherché pourquoi et comment et qui avait aidé Napoléon à s'enfuir. Et à un moment donné, je fais dire à Cambacérès dans ce livre, mais ils ont été eux-mêmes les précurseurs de cette évasion. Sachant que Napoléon se savait menacé, forcément, il n'était pas du genre à rester les bras ballants et à attendre que ça se passe sans lui. Donc, il a pris les devants et il s'est échappé.
La mode à l'époque, c'est que les dames de la haute société tiennent salon.
Tout à fait.
Et Mathilde, c'est son cas.
Voilà, alors elle tient un salon scientifique, justement.
C'est assez étonnant pour l'époque.
Voilà, parce qu'en fait, lors du premier... Donc, je rappelle, c'est mon héroïne fictive. Et dans le premier tome, lorsqu'elle a commencé à vouloir tenir salon, Napoléon a fait demander à Cambacérès, qui était son second consul, qu'elle ne tienne pas un salon politique, parce que Madame de Staël, Juliette Récamier avaient des salons qui étaient littéraires, mais aussi un peu politiques.
Et souvent... Ce que détestait Napoléon, d'ailleurs.
Oui, parce que souvent...
Qui était misogyne.
Oui, mais c'est surtout parce qu'elles étaient très libérales. Ou royaliste, Madame Récamier était plus royaliste et Madame de Staël était plus libérale. Et donc, elle est à l'encontre de la politique de Napoléon et c'est pour ça que, quelque part, il n'aimait pas ces salons-là. Donc, il avait demandé à ce que la femme de Cambacérès, dans ma fiction, ne tienne pas un salon politique et elle a donc choisi un salon scientifique épaulé par Gaspard Monge, qui est le fondateur, l'un des fondateurs de l'École Polytechnique.
Un personnage que nous découvrons alors... qui a l'air de se tromper politiquement à certains moments, c'est Benjamin Constant.
Oui, Benjamin Constant. Alors, lui, il était un peu à voile à vapeur. Enfin, il allait un peu dans tous les sens,
oui,
comme il dit. C'est la
girouette.
Voilà, un peu comme c'est Edgar Faure qui dit c'est pas le vent qui tourne, c'est la girouette.
Oui,
c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.
C'est le vent,
voilà.
C'est Edgar Faure, oui.
Voilà, bon, bah, il dit un petit peu la même chose. Et c'est vrai que je pense qu'il avait une personnalité assez égocentrique et il avait envie de réussir et ben il allait là où il pouvait réussir, sachant qu'il a été pendant longtemps l'amant de Madame de Staël. Qu'il devait aimer, j'espère, pour elle, mais elle avait aussi un grand carnet d'adresses, et je pense qu'il s'est servi de son carnet d'adresses jusqu'à ce que ce carnet ne soit plus utile, et dans ce cas-là, il a un peu laissé tomber Madame de Staël en épousant une femme sans le lui dire, quoi. Et ça a été un drame pour elle.
Alors, j'ai été étonné de trouver un nom dans votre ouvrage, celui de Sadi Carnot. Je me suis dit, mais Sadi Carnot, il a été assassiné dans les années 1880 par Caserio, si mes souvenirs sont bons. Il n'était pas né, j'ai vérifié, il était né en 1837. Ouais, et vous m'avez donné une précision très importante pour les personnes qui vont lire ce livre et qui pourraient avoir le même étonnement que moi.
Voilà, il y a eu un autre Sadi Carnot qui était le fils de Lazare Carnot. L'un de ses fils, il avait eu deux fils. Et...
Qui était un oncle en quelque sorte.
Voilà, qui était un oncle. Enfin, en tout cas, c'est pour ça que le second Carnot s'est aussi appelé Sadi. Sadi étant... c'est un lien avec un poète qu'aimait Lazare Carnot et c'est pour ça qu'il a appelé son fils Sadi.
Qui était probablement voilà. Le poète Saadi.
Effectivement. Et donc Sadi Carnot, ce qui est intéressant, il est aux bases de la thermodynamie. Il a inventé des bases de thermodynamique qu'il n'avait pas démontré parce qu'il est mort très jeune. Je ne sais plus de quoi, de maladie, de tuberculose, je crois. Et donc, c'est seulement quelques années après sa mort qu'on a réussi à démontrer ses théorèmes de thermodynamie. Donc, c'était un ingénieur, un inventeur et un polytechnicien.
Et ce qui est curieux, c'est qu'on cite sans arrêt son homonyme et parents sans jamais parler de lui. Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie d'Aline Voineau pour Napoléon, Louis et Mathilde, 200 jours. Ouvrage donc paru chez Plume Tactile, et comme vous me l'avez précisé, c'est le premier ouvrage paru chez cet éditeur.
Exactement.
Et paraissant à quelle date exactement?
Alors il sortira le 15 juin.
Oui, bah, cette émission sera diffusée aux environs de cette date,
voilà,
ce qui est parfait.
Trouvable chez tous les libraires, ils peuvent le commander si jamais il n'est pas en place, mais voilà.
Et nous assistons donc au départ, il prend ce qu'on peut appeler la route Napoléon, maintenant qui a été immortalisé sous ce nom, et au fur et à mesure de sa progression, on voit les retournements de veste.
Et oui, c'est-à-dire que, mais vous vous rendez compte, vous voyez arriver votre empereur, vous avez pour mission de lui tirer dessus, parce qu'il est déclaré hors la loi par le congrès de Vienne dès le 13 mars, et un soldat, il était reconnu comme un tel général, Napoléon, qu'un soldat ne pouvait pas tirer sur son empereur. Donc forcément, c'est le septième de ligne, le premier, avec le colonel Labédoyère, qui s'est rallié à lui. Et au fur et à mesure qu'il avançait, les hommes se rallient à lui. C'est ce qui a posé un problème à Lyon, parce qu'un certain nombre de princes de sang, le comte d'Artois, etc., étaient partis pour l'arrêter. Mais à un moment donné, ils se sont posé la question, est-ce qu'on reste au risque que les soldats le rejoignent, ou est-ce qu'on se replie pour éviter que tous les soldats qu'on a amenés pour se battre contre lui le rallient.
Ce qui aurait été fort probable d'ailleurs,
fort de probable, voir évidemment.
Mettre la crosse en l'air, comme on disait, tirer sur leurs propres généraux, pour reprendre
Exactement.
Une phrase, je crois que c'est dans l'International, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait d'ailleurs une gazette à l'époque, je ne sais plus laquelle, au début qui avait dit « l'usurpateur s'est enfui », ensuite Napoléon, et à la fin, Sa Majesté l'Empereur vient d'arriver à Paris.
C'est fait très vite, hein, c'est incroyable quand on y pense, et puis sans effusion de sang, et ça il les tenait énormément. Donc il est remonté à Paris sans avoir tiré une seule balle. Et d'ailleurs, on peut reprocher à Louis XVIII de ne pas s'être barricadé, de ne pas avoir fait acte de résistance dans Paris. Il a vraiment fui, et on parlait de son physique au départ, et c'est peut-être aussi pour ça, il n'était pas un roi guerrier, quoi. Et donc il a préféré fuir plutôt que de s'opposer à lui.
Il était à Gand, si mes souvenirs sont exacts,
voilà.
Et à l'époque, on aimait déjà beaucoup les calembours, on l'appelait notre père de Gand.
Exactement.
Mais lui-même aimait les calembours d'ailleurs, parce que...
Il avait de l'esprit.
Oui, parce que lors de son agonie, il a dit il faut faire vite car Charles attend. Ce qui prouve qu'il avait vraiment, c'était quand même quelqu'un de très intelligent. C'est dommage qu'il ne soit pas plus connu. On connaît un petit peu son favori, c'était Decazes.
Ah oui, le second. Après Blacas, il y avait eu Decazes, effectivement. Il apparaît à la fin du livre. S'il y a une suite, on le verra officier un petit peu plus.
Justement, j'allais vous poser une question. On arrive là, j'ai parlé tout à l'heure de trilogie, mais. Napoléon, après tout, il est toujours vivant, même s'il part à Sainte-Hélène.
Il part à Sainte-Hélène, et puis il y a tous les descendants de Napoléon, tous les qui est intéressant de suivre. Est-ce qu'il y aura une suite? C'est votre question.
Exactement.
Écoutez, je ne sais pas encore, parce que c'est quand même une énorme masse de travail. Là, j'arrive à une étape. On verra un petit peu si ce tome-là marche très bien. Si mes lecteurs m'encouragent à continuer, je continuerai. Donc je vais voir. Je suis pas encore. Je ne sais pas encore.
Alors, lorsque Napoléon va abdiquer pour la deuxième fois, il pense pouvoir traiter avec les Anglais pour ne pas aller aussi loin que Sainte-Hélène.
Oui.
Il va être trahi en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Il pensait être dans un cottage, passer sa vie tranquille en Angleterre. En aurait-il été capable? Je ne suis pas sûre. Il a largement pensé partir aux États-Unis. En fait, on voit que Napoléon est hésitant, ce qui n'est pas la caractéristique qu'on connaît de Napoléon Bonaparte. Hein. Donc, on voit qu'il a vieilli, qu'il est fatigué et qu'il ne prend plus décision. Et s'il s'est rendu à l'Angleterre, c'est aussi parce qu'il n'a pas pris l'option de partir plutôt aux États-Unis. Il trouvait que ça manquait de panache aussi s'il se faisait arrêter. Enfin bon, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? Souvent, j'y pense. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête quand il s'est rendu aux Anglais et qu'il s'est rendu compte que les Anglais le trahissaient?
Vous parliez tout à l'heure des États-Unis, mais il y a un Bonaparte qui est arrivé aux États-Unis, qui a fondé un organisme très connu, le FBI.
Tout à fait.
On oublie que c'est un Bonaparte.
Alors ça, c'est la descendance de Jérôme. En fait, Jérôme Bonaparte, quand il a fait son service militaire,
c'est
était marin.
C'est lui qu'on appelait Plomplon, je crois, non?
Non, c'est un descendant de lui.
Il
s'appelle Jérôme aussi,
pardon.
Mais c'est voilà. Non, Jérôme Bonaparte, donc le plus petit frère de la fratrie des Bonaparte, est parti faire son service militaire dans la marine. Il est allé à Baltimore, où il a épousé une riche... la fille d'un riche commerçant. Et contre l'avis de Napoléon, puisqu'il n'a pas demandé la permission à Napoléon, leur père étant décidé, et Napoléon s'était un peu octroyé le rôle de père. Et enceinte, Elizabeth Patterson, elle s'appelait, n'a pas pu arriver en France. Et il lui a interdit de mettre le pied en France, et donc elle est repartie aux États-Unis. Entre-temps, le mariage a été rompu, et Jérôme s'est remarié avec une princesse. Allemande, enfin des pays plus à l'est de la France, et c'est une descendante donc de Jérôme, et quand elle est repartie aux États-Unis, c'est l'arrière petit-fils ou le petit-fils de Jérôme.
Alors, lors de la deuxième restauration, il y a un événement, une série d'événements dont on parle rarement mais qui ont été horribles, c'est la Terreur Blanche.
Oui.
On en parle rarement de cela, mais c'était une répression très féroce.
Oui, ça a été terrible, parce que c'était les royalistes qui se vengeaient vraiment, les ultras essentiellement, qui se vengeaient de tout ce qui était les protestants,
les napoléoniens. Pourquoi les protestants?
Parce que je crois qu'ils étaient très napoléoniens. Vous savez, Napoléon était très libéral, en fait. Enfin, il était très libéral. En termes de culte, il avait autorisé les Juifs de pouvoir vivre tranquillement en France, les protestants, vous voyez, il respectait énormément.
Lors de son expédition en Égypte, il s'était intéressé également.
Il avait énormément
également.
Respecté les musulmans, etc. Il avait briefé ses soldats en disant « respectez leur religion, elle est aussi importante que la vôtre l'est pour vous ». Enfin, il était assez ouvert pour ça. Et bon, après, Napoléon, il n'était pas bête, hein, c'est-à-dire qu'il savait aussi pourquoi il fallait... La religion est importante pour pouvoir gouverner les hommes, pour pouvoir les amener là où on veut, et donc il avait intégré cette... partie-là dans ses commandements.
Et donc, cette répression a été terrible. Il y a eu des... Bon, est-ce qu'on peut quantifier le nombre de morts? Non,
je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est là la limite entre le romancier et l'historien.
Bien sûr.
Et je ne suis pas un puits de science autant que peuvent l'être mes maîtres historiens.
Vous faites tout de même des recherches historiques importantes.
Ah oui, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoires, beaucoup de livres. Oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup lu pour pouvoir... Déjà pour connaître l'époque, mais ensuite pour pouvoir bien maîtriser les personnages, vous êtes obligé de lire beaucoup de mémoires. Je lis beaucoup de mémoires d'époque, en fait. Voilà, j'ai une...
Alors, s'il y a un volume 4, je pense que vous allez vous pencher sur le mémorial de Sainte-Hélène.
Sans doute, oui. Surtout le mémorial retrouvé. Vous savez qu'ils ont retrouvé un original du mémorial de Sainte-Hélène parce que, à l'époque, Lascaz a quand même fait un certain commerce avec son livre, puisque d'un certain nombre de tomes, il s'en est rajouté quelques-uns en brodant un petit peu, mais ils ont retrouvé l'original qui avait été saisi par les Anglais. De la Fondation Napoléon, ils ont fait un superbe travail et ils ont republié en notant toutes les différences entre le nouveau et l'ancien. Donc c'est le manuscrit retrouvé, c'est vraiment à compiler, à regarder, c'est passionnant.
Vos lecteurs, vous les rencontrez, je pense, dans des salons du livre.
Oui,
et là, nous arrivons en pleine période de salon du
livre,
d'ailleurs.
Voilà, je sors d'un salon du livre, j'étais au salon de Brive, la foire au livre de Brive, la foire au livre militaire.
Alors, ah, donc, c'est pas la même,
mais c'est les mêmes lieux et ce salon est fantastique. Donc, c'était dédié cette année aux blessés militaires. Et c'est vrai que c'est passionnant, parce qu'en plus, on a un public non pas acquis, mais Napoléon est aimé par les militaires. Et connu, et donc, parce que souvent dans des salons, ah mais Napoléon, je n'aime pas. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que vous n'aimez pas? En fait, ils ne le connaissent pas. Et c'est un peu la mouvance actuelle qui est de ne pas aimer Napoléon, alors qu'on vit du Napoléon tous les jours en vivant en France. Et on ne peut pas ne pas connaître
Napoléon. Le code civil.
Voilà, le code civil, mais pas que, les lycées, les préfectures, l'administration a été... Il a quand même arrêté la révolution, je veux dire, le directoire n'y était pas arrivé. C'était un vaste bazar quand il est arrivé. Heureusement qu'il a mis un frein, et on a besoin de temps en temps des leaders comme ça, comme De Gaulle, comme Napoléon, qui remettent un peu d'ordre. On aurait peut-être besoin actuellement de Napoléon bis.
Mais en vous écoutant, j'ai l'impression que vous allez repartir sur un quatrième volume.
Disons qu'il y a un personnage qui me passionne, c'est Louis Hachette. En fait, quand j'ai commencé la série, je m'étais vraiment dit que j'arriverais jusqu'à Louis Hachette. Donc Louis Hachette, il est au moment de Charles X, hein, c'est donc on va y arriver, c'est juste après Louis XVIII.
Et quelqu'un de très célèbre qui a édité Louis Hachette, c'est la Comtesse de Ségur.
La Comtesse de Ségur. Et donc, en fait, quand on connaît bien Louis Hachette, on se rend compte dans mes tomes que je prépare l'arrivée de Louis Hachette, parce qu'il se trouve que Louis Hachette a été le professeur des enfants du notaire de Germaine de Staël et de Necker. Et donc, je le dis, je l'ai fait arriver pour que quand Louis Hachette arrivera, donc normalement, c'est fait pour continuer.
Ça serait très bien, parce qu'on ne le voit jamais dans les livres, ça serait très bien que vous lui consacriez un roman.
Et c'est super intéressant, parce qu'on voit comment est-ce qu'il a monté sa librairie. Qui était la première librairie mondiale quand même. Et souvent, bon, moi je viens du marketing, j'ai travaillé chez Procter & Gamble, on dit que c'est Procter & Gamble qui a inventé les positionnements, les niches, etc. On se rend compte que Louis Hachette avait tout inventé déjà.
Nous arrivons au terme de cette émission. Aline Voineau, je rappelle le titre de votre ouvrage « Napoléon, Louis et Mathilde, 200 jours ». C'est un ouvrage qui vient juste de sortir et pour l'été, c'est un ouvrage idéal pour ceux,
voilà.
et ceux qui ne les ont pas lus, qui lisent les deux précédents volumes.
Voilà.
Merci à vous. Alors nous allons terminer avec un morceau de circonstance, puisque c'est Le Rêve Passe, morceau très célèbre interprété par Armand Mistral et qui évoque la garde impériale.
Les soldats sont là-bas, endormis sur la plaine, où le souffle du soir chante pour les bercer. La terre au blé rasé parfume son haleine, la sentinelle au loin va d'un pas cadencé. Sous la voici qu'au ciel les cavaliers sans nombre illuminent d'éclairs la précise clarté. Et le petit chapeau semble guider ses ondes vers l'immortalité. les hussards, les dragons, la garde, glorieux fond, d'Austerlitz que l'aigle regarde, ceux de Kléber, de Marceau chantant la victoire, géant de fer, sans vos chevaux chez la gloire. Mais le petit soldat voit s'assombrir son rêve. Il lui semble là-bas qu'un orage se lève. L'hydre au casque pointu sournoisement s'avance. L'enfant s'éveille ému, mais tout dort en silence. Et dans son cœur, le songe est revenu. Les canons, les clairons, écoutez. Enfants de la race, sans les enchants.